Alors, on va poursuivre 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 23. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, hein, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Donc, un petit peu avant ce passage, Paul a employé un langage plutôt lié à l'agriculture, où il parle de semer, d'arroser, et puis Dieu qui fait croître. Et maintenant, il va employer un langage plutôt lié à la construction, au bâtiment. Et il dit que nous sommes des ouvriers de Dieu, et nous sommes en train de construire un édifice. Et on est à la fois les ouvriers et à la fois, en même temps, les pierres vivantes, hein, c'est ce que dit Pierre, on construit, mais on construit avec des pierres vivantes, les uns avec les autres. Et qu'est-ce qu'on construit ? On construit l'Église, qui est le temple de Dieu. Ailleurs, dans un autre passage, il est écrit, « Car nous sommes, nous, chrétiens, le temple de Dieu, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » Dieu est au milieu d'eux et il dit, « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Et donc, l'ensemble des chrétiens forment le temple de Dieu. Et il est au milieu de nous et il marche au milieu de nous parce qu'il se plaît dans son temple. Et Paul a posé le fondement de l'édifice, il dit, comme un sage architecte. Et on ne peut construire quelque chose que si on repose sur un fondement qui est stable, qui est solide. Et ce fondement, eh bien, c'est Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Notre vie à tous repose sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça peut signifier ? D'abord, dans le fait que Jésus-Christ renferme en lui-même tout ce dont il nous faut pour pouvoir vivre. Il est vraiment ce qui nous permet de vivre et de pouvoir eh bien, être épanoui et vivre la vie comme il faut. Étant Dieu, il pourvoit tous nos besoins, que ce soit les besoins matériels, besoins du corps, que ce soit les besoins de l'âme, les besoins psychiques, ou que ce soit les besoins spirituels, les besoins de notre esprit, Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il est la source de qui provient toute chose. Il est à la fois, il donne à la fois le pain qui nous nourrit, et il donne l'amour hein, qui fait du bien à notre âme, mais il donne aussi les paroles qui viennent vivifier, qui viennent nourrir notre esprit à l'intérieur. Et tous les apôtres l'avaient bien compris. Il est écrit à un moment donné que, donc c'était suite au fait qu'il disait « Prenez ceci et mon corps, mangez-en tous hein. ». Certains des disciples ont commencé à s'écarter. Hein. Ils n'étaient pas vraiment disciples. Ils se sont écartés de lui. Et puis ils sont partis, ils n'allèrent plus avec lui. Et Jésus a dit aux 12 « Et vous, est-ce que vous ne voulez pas aussi vous en aller et partir ?» Et puis la réponse était, mais à qui irions-nous, Seigneur ? À qui irions-nous ? C'est toi qui es notre vie, c'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui nous communiques toutes choses, tu es le Créateur. avec qui, vers qui nous pourrions nous tourner? Jésus est le fondement de notre vie et nous avons tout en lui. Et j'aimerais revenir sur 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 30, un verset qu'on a vu brièvement la dernière fois. Il est dit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et là, on voit encore le fondement que la personne de Jésus-Christ représente pour nous. Quelqu'un d'entre vous manque-t-il de sagesse, dit Jacques, qui la demande à Dieu, qui donne à tous sans reproche, et elle lui sera donnée, c'est ce que dit Jacques. Et quelle grâce, hein? Qui peut dire, moi je n'ai pas besoin de la sagesse d'en haut, je peux me débrouiller tout seul. Non, on a besoin, on a tous besoin que Dieu vienne nous éclairer. Et Jésus, il est dit, il a été fait pour nous sagesse. Il est la sagesse qui est venue habiter dans notre cœur. Hein. On a vu tout à l'heure, une maison eh bien, se bâtit par la sagesse. Et quand on accepte Jésus, elle est en nous. Si on manque de sagesse, simplement, avec simplicité de cœur, on dit, Seigneur, je ne sais pas quelle direction prendre. Donne-moi ta sagesse. Je crois, sans douter. Et la sagesse nous est donnée, il nous aide. Jésus est encore le fondement de notre vie parce qu'il a été fait justice pour nous. On vient de le chanter, là. Précieux sang de Jésus, il est notre justice. Job disait, non pardon, c'est dans les Proverbes, qui dira, j'ai purifié mon cœur? Qui dira, je suis net de mon péché? Qui peut dire ça? Une seule personne, celle qui a mis sa confiance dans le précieux sang de Jésus. Et donc qui a obtenu la justice, il est notre justice. Il nous donne sa vie parfaite, sa vie de juste. Et c'est une grâce. Et comme François le relevait, c'est vrai, il nous appelle les justes. Ceux qui ont cru sont les justes. Est-ce que nous sommes justes? Non. Mais par Jésus-Christ, parce qu'il nous revêt de sa justice, alors nous sommes justes. Et puis aussi, Jésus a été fait pour nous sanctification. Comment vivre une vie de sainteté, nous qui buvons l'iniquité comme l'eau, dit la Bible. Nous qui sommes promptes à la chute, qui sommes tous comme des impurs, mais Jésus est notre sanctification. Ça veut dire que, encore une fois, il vient en nous et il veut vivre sa vie de sainteté en nous. Nous n'avons pas la sainteté, mais lui peut nous vivre en nous et nous entraîner finalement dans sa sainteté et nous faire bénéficier de sa sainteté. Et puis enfin, Jésus est notre rédemption, en sorte qu'on n'a pas besoin d'essayer de se racheter nous-mêmes, que ce soit par un pèlerinage, que ce soit par des prières, par des jeûnes, par des œuvres, par des sacrifices, par des offrandes. On n'a pas besoin de se racheter. Il nous a rachetés. Simplement, on accepte que Jésus soit notre sauveur et notre rédempteur. Il n'y a rien à faire. Et donc, quand on voit ça, sagesse, justice, sanctification, rédemption, on comprend que Jésus est notre fondement. Il est celui sur lequel toute notre vie repose. Avant, nous étions pauvres, misérables, aveugles, nus. Et quand on vient à Jésus-Christ, il nous enrichit, il nous rend la vue, il nous accorde sa sagesse et il nous donne un habit, il nous revêt. Et puis Jésus est le fondement de notre vie dans le sens aussi où il faut qu'on fasse reposer notre vie sur lui et sur son enseignement. C'est ce qu'il a dit à la fin du sermon sur la montagne. Il a dit en Matthieu 7, verset 24, il a dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur un fondement qui est solide. » Et avoir Christ pour fondement, c'est avoir ses paroles pour fondement, ses enseignements. On fait reposer sa vie sur ce qu'il dit. Je veux faire ce que Jésus me dit dans la parole. Voilà, je repose sur un fondement solide. Et on peut dire que construire sa vie sur Christ, c'est aussi dépendre de lui. Et cet aspect est très important. Parce que Jésus ne nous demande pas d'obéir d'une manière froide, simplement aux commandements qui sont dans la parole de Dieu. Mais il veut une relation qui est vivante, une communion qui est vivante. Et pour prendre un exemple, si on regarde les juifs religieux du temps de Jésus dans les évangiles, ils obéissaient à la parole, mais ils obéissaient d'une manière froide. Ils donnaient leur dîme, ils faisaient les offrandes, ils s'en vantaient même, hein, parce qu'ils faisaient tout selon les règles, etc. Mais il n'y avait pas la vie, en fait. Il n'y avait pas la communion avec Dieu. Il n'y avait pas un contact, une vraie relation. Et Dieu ne veut pas que, voilà, on obéisse froidement. Bon, ben, il faut le faire, je le fais. Non, Dieu veut une relation avec lui, une vraie communion. Et avoir Christ pour fondement, c'est avoir Jésus pour Seigneur dans toute sa vie, tous les jours de sa vie, à chaque instant. Jésus est venu habiter dans notre cœur, il ne nous a pas laissé orphelins, et c'est pour qu'on ait une communion avec lui, une vraie relation avec Dieu. Et c'est vraiment important, parce que la Bible ne nous dit pas « Est-ce qu'il faut que j'appelle un tel aujourd'hui ?» Ou bien « Il faut que je l'appelle plutôt la semaine prochaine ?» Ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible ne dit pas « Est-ce que je dois acheter cette voiture ?» Ou non, il vaut mieux ne pas le faire. La Bible ne dit pas « Est-ce qu'il faut que je prenne cette responsabilité ?» Ou non, il vaut mieux que je laisse ça à quelqu'un d'autre. Et je vais plus loin, la Bible ne dit pas « Est-ce que je dois parler là ?» Ou « Est-ce que je dois me taire ?» La Bible ne le dit pas. Bien sûr, on pourra toujours trouver un verset qui va nous aider, hein, mais elle ne le dit pas explicitement. La Bible ne répond pas à toutes les questions de manière précise. Mais par contre, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, il y a l'aspect, quand on fait reposer sa vie sur Jésus-Christ, l'aspect d'obéir aux paroles, aux enseignements de Christ, et puis d'obéir au Saint-Esprit qui est dans notre cœur, qui est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ. Et donc, ça implique de développer une relation avec le Seigneur. Dieu ne parle pas forcément en nous disant « à droite, à gauche », mais il va faire descendre une conviction dans notre cœur. C'est ça, je sais que c'est ça, et on y va. Hein? Et ça se développe, il faut vivre, c'est vivre sa vie de prière, vivre sa relation, vivre la lecture, vivre avec Dieu, chercher Dieu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, il devient palpable. Et si on est perdu, eh bien, il y a toujours notre sagesse pour nous guider. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Demandez et vous recevrez. Et c'est très important d'avoir ces deux aspects dans notre vie chrétienne. L'obéissance à la parole, l'obéissance au Saint-Esprit dans notre cœur. Parce que bâtir quelque chose, ce n'est pas difficile en soi, bâtir. Je suis sûr que tout le monde, et il y en a qui sont moins bricoleurs que d'autres, mais tout le monde est capable de prendre un marteau, peut-être en se tapant sur le doigt, mais de clouer deux planches ensemble. C'est possible. Hein? C'est possible aussi de poser un parpaing sur un peu de ciment. Hein? C'est assez facile. Hein? On pose un parpaing, pof, ça y est. Maintenant, c'est une autre chose de voir au final si l'ouvrage est solide, hein? Si c'est bien bâti, si ça se construit, si c'est stable, si vraiment c'est bien posé. Si on construit quelque chose de durable, ou bien si on est en train de construire quelque chose qui est voué à la destruction. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Et Paul dit, versets 11 et 12, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Mais il poursuit, verset 12, « Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Et on voit ici qu'il y a deux types de matériaux que l'on peut employer pour construire sur Christ le fondement. Il y a des matériaux qui sont précieux, qui sont durables, et puis il y a des matériaux qui sont de peu de valeur et éphémères. D'un côté, c'est l'or, c'est l'argent, les pierres précieuses, donc des matériaux qu'on pourrait dire nobles, rares, coûteux, avec beaucoup de valeur, et il en faut peu pour que ça compte, très peu. Il y a des œuvres que nous pouvons faire, des paroles que nous pouvons dire, ou bien des gestes que l'on peut offrir, qui sont précieux parce que ça repose sur Jésus-Christ, dans le sens où c'est Christ qui inspire ces choses, c'est lui qui les anime, ça vient de lui, tout est à lui. Et donc tout ça, c'est précieux, c'est de l'or, c'est des pierres précieuses, des rubis, des choses vraiment qui comptent. Et c'est ça, c'est que Christ fasse les choses au travers de nous, c'est ça qui rend précieux la chose. Parce que lorsque Christ fait quelque chose, alors à ce moment-là, l'homme n'y est strictement pour rien. Il n'y a rien à lui. Il ne pourra jamais s'en glorifier. Tout à l'heure, on a chanté que nous jetterons nos couronnes au Seigneur. Pourquoi ? Parce que si on a une couronne, ce sera la sienne. C'est lui qui l'aura acquise. Par sa force, par son esprit, par son inspiration, par sa grâce. C'est lui. Donc, est-ce qu'on aura une couronne ou des couronnes à jeter au Seigneur ? Et c'est ça, bâtir sur le fondement. Parce que de l'autre côté, il y a le bois, le foin, le chaume. Alors, ce n'est pas quelque chose de sans valeur. C'est vrai que même des bois, on peut trouver des bois rares. Mais qu'est-ce que, à côté de l'or et de l'argent. Et quand on regarde du foin, du chaume, ça ne vaut rien à côté de l'or et des pierres précieuses. Il suffit d'un rubis ou d'une émeraude, grosse comme un œuf ou une balle de ping-pong, et on est riche, très riche. Par contre, combien de paille et combien de chaume ou de bois faut-il pour être riche ? Il en faut une quantité énorme. Paul nous parle de matériaux qui sont volumineux. Ça remplit l'espace. Mais il y a beaucoup de vide. Il y a beaucoup d'air. Et Paul nous parle ici donc des œuvres qui sont faites par nous. Des œuvres de la chair. Ce n'est pas nécessairement des œuvres mauvaises. Hein. On peut être même généreux. On peut faire plein de choses. Hein. Mais des œuvres qui sont faites par l'homme, en fait. La chair. Et on peut parfois servir le Seigneur à notre manière, selon nos plans. Alors on bouge à droite, on bouge à gauche, on est actif, mais au final, c'est très volumineux, mais c'est creux, c'est vide. Il manque le Seigneur. Parce que ce sont des œuvres, ce sont des paroles prononcées qui ne reposent pas sur Jésus-Christ. Et si on ne fait pas reposer sur le fondement, alors c'est creux, alors c'est vide. Ce n'est pas animé, ce n'est pas porté par lui, ce sont nos œuvres. Maintenant, gardons-nous de juger l'un ou de juger l'autre en se disant « Oh, telle parole » ou « Oh, telle œuvre hein, » ou « Il ne faut pas se garder, enfin, il faut se garder de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il dit « C'est Dieu qui va éprouver l'œuvre de chacun à la fin. C'est son œuvre, ce n'est pas la nôtre. Nous, on ne doit pas faire ça. On doit s'occuper plutôt de soi-même et de marcher avec le Seigneur. » Puisqu'un jour, il est dit, le jour la fera connaître. Le jour, en fait, c'est le retour de Jésus. Hein, où là, eh bien, nous passerons tous au travers du feu. Et on sait ce que fait le feu sur le bois, le chaume et la paille. Versets 14 et 15. 14 et 15, il dit, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Et donc, c'est le feu qui va révéler ce que sont nos œuvres. Et nous ne recevrons une récompense que pour ce qui a été posé sur le fondement Jésus-Christ, ce qui est passé au travers du feu, qui est arrivé de l'autre côté, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Mais le bois, le foin et le chaume sera brûlé, consumé. Il dit pour lui, il sera sauvé. Et ça, c'est quelque chose qui vient nous dire encore, mais quand on est sauvé, on l'est pour toujours. C'est définitif. Hein? On passe au travers du feu, mais on est sauvé. Maintenant, on peut avoir mené une vie peu fidèle et malgré tout, eh bien, être au Seigneur, être sauvé. Je dis peu fidèle parce que je ne crois pas qu'un enfant de Dieu ne porte jamais de fruit. Il porte du fruit. Parce que Dieu, dans sa grâce, lui fait porter du fruit. Mais certains vont en porter beaucoup, d'autres vont en porter beaucoup moins. Et certains, eh bien, peuvent se retrouver les mains vides, n'ayant pratiquement aucune richesse, aucun trésor dans les mains. Alors peut-être qu'un chrétien peut se dire, il vit dans l'infidélité, il se dit, oh moi, de toute façon, les récompenses, ça m'est égal. Hein? Non, moi, je ne suis pas attaché aux récompenses. Hein? Je ne regarde pas ça. Comme si c'était une preuve de spiritualité ou je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on peut se dire cela tant qu'on est dans ce monde entouré de pécheurs qui sont pires que nous. Hein? Et un chrétien se dit, bon, de toute façon, il y a pire. Hein? Il y a bien pire autour de moi. Et on est, voilà, dans la masse. Hein? Mais une fois que le cadre va changer, imaginez-vous, vous entrez dans le ciel, le cadre change complètement. Et là, vous n'êtes plus entouré des pécheurs qui sont comme vous ou pire que vous, mais vous êtes entouré de saints qui sont plus purs, plus saints, plus fidèles que vous, qui ont mené une vie vraiment... Et là, vous vous retrouvez isolé dans la position inverse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se fond dans la masse. Mais un jour, notre vie va être exposée au regard de tous, au regard de tous nos frères, au regard de toute l'Église. On sera devant tous. Et la lumière de Christ va éclairer toute chose. Et là, on va voir ce que nous aurons dans nos mains, parce que notre bagage, ce sera la réalité de notre vie avec Jésus sur la terre. Ce que nous aurons, ben, ça sera notre vie. Certains vont peut-être avoir une toute petite pierre, pendant que d'autres sont couverts. Je ne sais pas. Est-ce que nous aurons vécu une vie fidèle, consacrée? Et notre vie aura une réelle valeur par le temps effectif où nous aurons voulu vivre pour Jésus-Christ. Si nos jours auront été vécus dans la fidélité, dans le renoncement, dans un désir toujours, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas. Hein? Le juste tombe, mais il se relève. Et il veut encore et encore marcher avec son Seigneur. Si nous aurons vécu comme cela, à vouloir que Jésus vive en nous, alors eh bien, on aura des trésors à présenter et on sera récompensé. Et le Seigneur pourra dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Si par contre, eh bien, on a peu à présenter, eh bien, on sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et on perdra toute récompense ou les récompenses que nous aurions pu avoir. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors de quel temple l'apôtre Paul est en train de parler ici? Nous sommes le temple de Dieu, c'est vrai. Notre corps est le temple, hein, selon ce que disent les Écritures. Et il est clair que Dieu veut qu'on prenne soin de notre corps comme étant un temple du Saint-Esprit. On ne peut pas faire n'importe quoi. Dieu veut qu'on en prenne soin parce qu'il est une habitation de Dieu. Mais ce passage ne parle pas de nos corps physiques. Le contexte, c'est plutôt le corps en tant qu'Église, l'Église de Jésus-Christ. Et c'est vrai que l'assemblée locale est un corps pour le Seigneur. D'ailleurs, dans tout Corinthiens, il va parler encore de ce corps. Hein. Nous sommes le temple de Dieu ensemble. Et l'Esprit de Dieu habite au milieu de nous. Il est là, avec nous. Nous sommes son temple. C'est merveilleux quand même. C'est une grâce. Hein. Une grâce. Dieu est au milieu de nous. Et il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, s'il touche à l'Église pour la détruire, alors Dieu le détruira. Et c'est ce que veut dire ce verset. C'est intéressant parce que le verbe grec traduit par détruire, donc si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il est employé dans d'autres passages où il parle davantage des relations avec quelqu'un, avec une personne. Par exemple, il est dit « ne vous y trompez pas ». Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompre, en fait, c'est détruisent, hein, c'est le même verbe, détruisent les bonnes mœurs. Donc, il y a une relation, une interaction entre des personnes. Ou bien encore un autre exemple, Paul dit, il s'adresse aux Corinthiens, donc dans sa deuxième épître, il dit, « Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré de profit de personne. » Ici, le terme « ruiner », c'est « détruire » encore. Hein. Et donc, encore l'idée d'une relation, voilà, quelque chose qui se passe entre des personnes. Paul n'a fait de mal à personne. Et au regard de la première épître et de tout le commencement de cette première épître aux Corinthiens, on voit que le thème que Paul touche, c'est cette situation conflictuelle qu'il y avait dans cette église de Corinthe. Il y avait des jalousies, jaloux les uns des autres. Il y avait des disputes, il y avait des rivalités, il y avait des divisions les uns envers les autres. Et certains, sans s'en rendre compte, étaient en train de détruire l'œuvre de Dieu, étaient en train de détruire le temple de Jésus-Christ. Alors, ils pensaient être sages, ils pensaient qu'ils étaient en train de construire, mais par leur attitude, ils étaient plutôt en train de détruire, parce que ce n'était pas l'esprit qui les poussait à la division et à la jalousie et à la rivalité, mais c'était plutôt la chair. Et quand on regarde ces termes, du début de l'épître, jalousie, dispute, rivalité, division, qu'est-ce qu'on peut dire qui est derrière? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui est dans notre cœur. Et c'est ça qui se manifestait. Et les uns pensaient qu'ils savaient mieux que les autres. Moi, je suis de Paul. Et puis les autres disaient, mais moi, je sais mieux. Non, je suis d'Apollos. Et puis les troisièmes disaient, non, moi, je sais mieux. Je suis de Céphas. Chacun pensait savoir mieux, avoir tout compris, en fait. Alors, eh bien, Paul dit, 1 Corinthiens 3, 18 à 20, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Et Paul leur rappelle que la sagesse du monde, c'est la sagesse de la chair, c'est la même. Cette sagesse qui est en nous, mais qui n'est pas juste. La chair pense être sage, elle pense qu'elle voit juste, mais son analyse n'est pas bonne. Alors il dit, cette sagesse-là est une folie devant Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on s'appuie sur notre sagesse. On l'a lu dans les Proverbes, Proverbe 3, où il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse propre. Et c'était vraiment se tromper pour les Corinthiens que d'élever un homme aux dépens d'un autre et de se focaliser finalement sur un homme plutôt qu'un autre. C'était une sagesse humaine, une sagesse qui divise, une sagesse qui sépare, une sagesse qui jalouse. Et Dieu ne veut pas qu'on brise l'Église locale en élevant l'un au nu, tandis que l'autre, eh bien, on le laisserait moindre de côté. Dieu regarde tous ses enfants de la même manière, tous. Et c'est touchant parce que quand on regarde l'épître aux Corinthiens, un petit peu plus loin, on le verra ensemble, mais il parle du corps humain. Et il compare l'Église à un corps humain. Qui va mépriser ses pieds? Qui va mépriser une main? On prend soin de notre corps. Il dit, mais c'est ça, vous êtes un corps. Et Christ est la tête. Et donc, on va prendre soin de tout le corps et s'occuper de tout le corps sans mépris pour l'un ou pour l'autre, sans rejet de l'un ou de l'autre. Versets 21 et 22. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Et par ce texte, il nous dit de veiller à ne pas mettre notre gloire dans des hommes. Serait-ce un grand théologien, serait-ce un pasteur remarquable, serait-ce un enseignant exemplaire, Dieu ne veut pas qu'on soit subjugué par l'homme aux dépens, et c'est souvent aux dépens d'un autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une complémentarité. Nous sommes complémentaires. Ça, c'était la pensée de Paul. Il dit, l'un sème, l'autre arrose, et Dieu fait croître. Donc, il y a cette idée de complémentarité. Et Paul, enseigne de ne pas devenir un pro-Paul ou un pro-Apollos. La vérité, c'est que tous les hommes sont différents, mais tous travaillent pour un but commun, ressembler à la personne de Jésus-Christ, être semblable à lui. Ainsi, il dit, tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Et c'est intéressant parce que Paul retourne la formule. Les Corinthiens disaient, moi je suis de Paul. Autrement dit, moi j'appartiens à Paul, hein, entre guillemets, je suis disciple de Paul. Ou bien, moi je suis de Céphas. Mais Paul dit, mais Céphas est à vous. C'est lui qui est à vous. Paul est à vous. Apollos est à vous. Ils sont à vous, ils sont tous à vous. Ils ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Quelqu'un a dit, faire du prédicateur une idole, c'est ruiner, c'est vouloir ruiner le temple de Dieu. Faire du prédicateur une idole, c'est ruiner le temple de Dieu. Pourquoi ? Parce que le temple est là pour adorer Dieu. C'est lui le centre, hein ? C'est lui qu'on vient adorer, c'est lui qu'on vient louer, c'est lui qu'on vient élever. C'est... Nos cœurs, eh bien, sont pour lui, entiers pour lui. Et lui seul est digne d'être au centre. Mais Paul va plus loin. Il dit, en fait, tout est à nous. Même le monde, même la vie, même ce qui fait partie de la mort, les choses présentes, les choses à venir, tout est à nous. Et c'est vrai que tout est à nous, dans le sens où Dieu fait tout concourir à notre bien. Tout. Il va se servir des serviteurs. Il va se servir des situations de cette vie. Il va se servir des épreuves. Il va se servir des inconvertis. Il va se servir des bénédictions. Il va se servir de tout ce qui est dans cette vie. Parce que le monde lui appartient. Il fait tout concourir à notre bien. Et donc, tout est à nous. Tout est à nous. Parce qu'il accomplit sa volonté dans nos vies partout. Verset 23, il dit, « Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Et là, on est en train de replacer les choses à leur juste place. Les Corinthiens s'étaient perdus en s'attachant à un homme, mais c'est avoir une vision finalement étroite et petite que de penser que tout doit passer par un homme. Que ben, c'est de lui que vient le salut. Non, il dit c'est étroit. Paul dit, élargissez votre vision. Regardez autour de vous, tout est à vous. Tout est là pour votre bien et pour votre instruction. Que ce soit les hommes, que ce soit le monde, que ce soit les circonstances permises par Dieu dans cette vie, tout est à vous, tout est là pour votre bien. Tout est à vous et vous êtes à Christ. Vous appartenez à Christ. Vous n'appartenez pas à un homme, vous n'appartenez à aucun homme. Ne devenez pas esclaves des hommes, dit la Bible, mais appartenez à Christ. Soyez entiers pour Christ. Nous lui appartenons. Et il dit, Christ, lui, est à Dieu. Tout appartient à Dieu, mais on peut dire qu'il y a comme un ordre dans l'appartenance des choses. Le Père possède le Fils possède l'Église, et l'Église possède toute chose. C'est ce que dit le passage. Hein. L'Église a toute chose, c'est à elle. Le Père n'est pas esclave du Fils. Le Fils n'est pas esclave de l'Assemblée de l'Église. L'Église ne doit pas être esclave de tout hein, ou du monde. C'est le contraire. Le Fils s'est fait esclave du Père. L'Église se fait esclave de Jésus. Nous sommes ses serviteurs, c'est doulos en grec. Doulos, si on prend de manière littérale, c'est esclave. Nous sommes des esclaves de Jésus, mais des esclaves volontaires, joyeux. On a envie, parce qu'on le connaît, on l'aime. C'est pas qu'il nous met les chaînes, non. C'est Seigneur, viens, lie-moi à toi, attache-moi à toi, parce que je t'aime, parce que tu m'as sauvé, parce que je t'appartiens. Et on peut dire tout le reste est esclave de l'Église. Dans le sens où c'est Dieu qui règne et qui contrôle tout le reste. Et donc Dieu fait tout concourir pour notre bien, pour notre édification, pour notre sanctification, pour notre transformation, pour tout, pour nos bénédictions, pour nos épreuves. Dieu légifère, règne sur toute chose. Donc tout est à nous. C'est merveilleux. Hein? J'ai besoin de quelque chose, mais si Dieu le veut, il le fait. Tout est à nous. Maintenant, c'est lui qui règne.